Alors j'aimerais qu'on prenne Romains, l'épître aux Romains, et on va lire les versets chapitre 12 et versets 1 à 8. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alors vous devinez, nous allons parler des dons ce matin. Lorsque Dieu sauve une personne, lorsqu'il en fait son enfant, il fait un don ou des dons, plusieurs dons. Ça veut dire qu'il lui accorde une capacité de faire quelque chose, non plus simplement au travers de ses capacités naturelles, mais au travers du Saint-Esprit, par le biais du Saint-Esprit. Parfois, c'est un don naturel que Dieu va sanctifier entre ses mains et il va nous permettre de nous en servir pour sa gloire. Et puis souvent, c'est quelque chose qui n'est même pas forcément naturel. Mais Dieu, eh bien, nous le donne et il nous donne cette capacité de faire cette œuvre, cette chose pour le Seigneur. Il va le développer en nous. C'est donc une capacité d'apporter quelque chose aux autres par le biais du Saint-Esprit. Et il y a un mot qui caractérise les dons, c'est le mot grec « charisma ». Charisma. Et malheureusement, quand on entend « charisma », ça nous renvoie tout de suite à ce que l'on range dans la catégorie donc des dons charismatiques, c'est-à-dire le don de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de prophétie, ou celui de parler diverses langues que l'on n'a pas apprises. Et en fait, on fait un peu comme les chrétiens de Corinthe. Les chrétiens de Corinthe focalisaient beaucoup sur ces dons surnaturels, ces dons miraculeux. Et on a tort, parce que charisma, c'est pas ça. Charisma, c'est l'ensemble des dons qui sont accordés par le Seigneur. C'est bien plus que les dons simplement miraculeux dans le sens de visible. Chaque don est un miracle en soi, puisque c'est Dieu qui agit. Hein, mais parfois, on a tendance à restreindre simplement à certains dons. Alors, qu'est-ce qu'un charisma ? Littéralement, c'est quelque chose que l'on reçoit gratuitement. D'ailleurs, il est parlé du charisma de Dieu, qui est traduit dans nos Bibles, par le don gratuit de Dieu qui est la vie éternelle. C'est le charisma de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est quoi ? C'est la vie éternelle. Et donc, il y a ce charisma qui est le don de la vie éternelle. Et puis, il y a les charismas, les autres, hein, qui sont eh bien, les dons que Dieu accorde à chacun de ses enfants. Qu'est-ce qu'il est dit à ce sujet, au sujet des dons que Dieu fait à chacun de ses enfants? Je vais vous lire juste d'abord quelques versets. Il est dit, par exemple, dans 1 Corinthiens, que chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. C'est 1 Corinthiens 7:7. Chacun. Nous avons chacun un don particulier, c'est certain. Peut-être aujourd'hui, vous ignorez, vous ne voyez pas vraiment quel est ce don, mais vous avez au moins un don. Si vous avez accepté Jésus, si vous êtes né de nouveau, vous avez un don, c'est certain. Il est dit aussi, toujours dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7, je crois qu'on a, non, on avait lu un petit peu plus loin là, 1 Corinthiens 12, 4 à 7, qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et dans ce passage, on voit que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit agissent ensemble dans le cœur d'une personne pour lui accorder une capacité, un don, quelque chose pour le corps de Christ. Et donc, il y a beaucoup de dons, mais il y a un seul Dieu qui opère tout et en tous. Et il est dit aussi, la deuxième chose, c'est que c'est la manifestation de l'Esprit qui est donnée pour l'utilité commune. Ça veut dire que les dons ne sont pas pour nous-mêmes. C'est pas pour nous faire du bien. C'est pas pour nous gargariser d'avoir un don et nous mettre tout seul dans notre chambre et pratiquer notre don, non. Moi, je prêche jamais un message tout seul dans ma chambre pour moi-même. Hein, si je le fais, c'est en prévision de l'accorder aux autres. Donc le don, c'est pour l'utilité commune. C'est pour le bien de l'ensemble du corps. Et donc le don n'a de raison d'être que dans et pour l'Église. C'est dans et pour l'Église de Jésus-Christ. Et c'est très important, parce que dès lors, l'Église locale, elle joue un rôle majeur dans l'exercice des dons. C'est indispensable. On a une communion, et si on ne forme pas une Église, eh bien on ne peut pas communiquer ce que Dieu veut que nous fassions. Il est aussi écrit en Romains 11, 29, que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire que quand Dieu donne, c'est définitif. C'est pour toujours. C'est la même chose que le salut. Quand Dieu donne la vie éternelle, hein, le don gratuit de Dieu, c'est définitif. On ne le perdra jamais. On ne peut pas perdre son salut. C'est quelque chose qui est dans notre cœur pour l'éternité. Et de la même manière, Dieu fait des dons à chacun d'entre nous, et c'est définitif. Même si nous venions à tomber, à nous écarter, eh bien Dieu ne va pas retirer son don. Si nous revenons au Seigneur, eh bien on pourra de nouveau mettre en pratique le don que Dieu nous donne, et on pourra le servir pour sa gloire. Mais alors vient une grande question que souvent on se pose, c'est quel est mon don ? Qu'est-ce que je peux faire pour servir Christ, hein? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? Tout d'abord, généralement, on ne sait pas immédiatement quand on se convertit, ah ben c'est ça mon don. En général, c'est plutôt un processus, petit à petit, ça prend du temps pour commencer à discerner quelle est la volonté de Dieu pour nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il nous a donné. Et au fur et à mesure de notre croissance, de notre marche avec Christ, eh bien, ça commence à s'éclaircir et ça devient une évidence. Alors, quels sont les dons possibles? On a lu ici une liste de dons dans Romains 12. Alors, il y a d'autres listes dans le Nouveau Testament. On ne va pas prendre l'ensemble des listes. Ce que nous voyons, c'est que les listes se complètent les unes les autres. Parfois, on retrouve des dons qui sont dans toutes les listes ou dans certaines entre elles. Et à chaque fois, eh bien, il y a des nouveaux dons qui sont cités. Et donc, au vu de ce que nous lisons, eh bien, on se dit que les listes ne sont pas exhaustives. Il y a ces dons qui sont cités, peut-être un peu plus d'une vingtaine, mais il y en a encore au-delà. Il y a plein de dons. Maintenant, quelqu'un a essayé de catégoriser un petit peu, donc on peut le faire en quatre grandes catégories. Il y a les dons de proclamation. Alors, eh bien, par exemple, apôtre, prophète, exhortation, enseignement, évangélisation, donc on proclame. Il y a les dons de service, le diaconat, l'aide, l'entraide, la libéralité, la miséricorde, la présidence, l'hospitalité, l'accueil, etc. Il y a des dons spéciaux, foi, guérison, miracle, discernement des esprits, sagesse, etc. Des dons de louange, alors on pourrait dire des dons musicaux, hein, de chant, dons du parler en langue, interprétation des langues, etc. Maintenant, parmi ces dons qui sont cités, il y en a, eh bien on ne les voit plus aujourd'hui. Ils ont plus cours aujourd'hui. Même si Dieu, par exemple, peut encore faire des guérisons, des miracles, et Dieu le fait en réponse à la prière, hein, il n'y a plus un don de guérison. Un don de guérison, c'est quelqu'un qui a la capacité de guérir tout le monde. Dès qu'il prie, il touche pour quelqu'un, il est guéri. C'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Eh bien, ce don-là, on ne le voit plus. Si on le voyait, Ça se saurait, hein, ça se répandrait comme une traînée de poudre. Mais la réalité, c'est qu'on ne le voit plus. Dieu guérit encore, mais plus de cette manière. Et on voit que ces dons particuliers ont été donnés pour appuyer le témoignage des apôtres. C'était, voilà, Dieu tapait fort pour dire, regardez, écoutez, ces hommes-là sont mes serviteurs et vous apportent mon message, écoutez-les. Maintenant, il y a beaucoup d'autres dons que Dieu nous accorde à chacun, selon que l'Esprit juge bon. Et certainement, une première chose importante, c'est réfléchir à l'ensemble des dons et des services qui sont possibles dans le corps de Christ. Parfois, on ne s'est même pas posé la question, en fait. On n'a jamais réfléchi au fait que peut-être Dieu m'appelle, moi, à faire quelque chose ici ou là. Vous savez, si il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit à moi, est-ce que tu as déjà réfléchi à l'idée de servir le Seigneur, devenir pasteur? Si quelqu'un ne m'avait pas posé cette question, eh bien, peut-être je me la serais pas posée. C'est parce que, eh bien, on me l'a dit que, ah bon? Et puis j'ai commencé à y réfléchir. Et puis ça a fait jour, hein, et c'est devenu clair dans mon cœur. Et parfois, il faut juste se poser la question. Se demander si ce ne serait pas une bonne chose que d'aller dans cette direction, que de servir de cette manière. Dieu dit oui, Dieu dit non, Dieu conduit. Et je suis convaincu qu'on a parfois des dons qui sont cachés en nous et qui n'ont pas pu encore s'exprimer. Parce que, ben voilà, peut-être on ne s'est même pas posé la question. Il faut considérer ce que nous pourrions faire et se poser justement la question. Et Dieu veut qu'on s'enrichisse les uns par les autres, qu'on s'apporte quelque chose les uns aux autres par l'Esprit qui nous a donné. Ensuite, parfois on peut avoir le sentiment, se dit que certains ont un appel, c'est clair, c'est évident pour tous, et nous, Dieu m'a pas vraiment appelé à quelque chose. Mais Dieu fait pas de favoritisme, et on l'a lu et on le lit, Dieu donne à chacun d'entre nous quelque chose. Il veut que nous nous édifions les uns par les autres. Qu'est-ce qu'un don spirituel? C'est un don de Dieu, donc c'est un don que Dieu se plaît à donner. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si d'abord il s'est plu à donner le don de la grâce, un charisma, le don c'est Jésus-Christ, hein, il nous a donné son Fils qui est mort sur la croix. Mais le don de Christ, c'est pas simplement le fait qu'il nous l'a donné sur la croix, c'est aussi le fait qu'il nous ait donné sa vie. Quand il nous donne le don de Jésus-Christ, il nous donne la vie de Jésus-Christ. Dieu nous a donné tout ce qui est en Christ. Dieu nous a donné le caractère de Christ. Il nous a donné l'esprit de Christ. Il nous a donné sa vie, la vie de Christ qui est en nous. Et qu'est-ce qu'un don spirituel, pardon, si ce n'est la manifestation justement de la vie de Jésus-Christ au travers de nous? C'est ça un don. C'est quand l'Esprit de Christ et la vie de Christ se manifestent au travers de nous. Comment je sais que quelqu'un a reçu un don? Parce que la personne, elle ressemble à Jésus-Christ. En exerçant son don, on voit Christ. Et elle nous communique la vie au travers de ses actions, de ses gestes, de ses paroles, de ses prières. Elle nous amène Christ, elle nous porte vers lui. On reçoit donc la bénédiction par le service, le ministère de l'un, de l'autre. Et au-delà des actes, au-delà des paroles, eh bien c'est Christ que l'on entend, c'est Christ que l'on voit. Et c'est ça qui nous bénit, c'est ça qui nous touche. 1 Pierre 4, verset 10. Pierre dit, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Donc, Pierre s'adresse à chacun. Il dit, vous êtes des dispensateurs des grâces de Dieu. Et vous devez mettre votre don au service des autres. Et donc, on doit le croire. Mais oui, j'ai quelque chose en moi que je peux apporter aux autres. Et nous devons prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? On doit même désirer servir par le biais de ce don, parce que c'est notre place, c'est notre place. On doit apporter chacun notre pierre à l'édifice, sinon le petit vélo, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'illustration, voilà, hein. S'il manque un boulot, il faut remettre sans arrêt la roue, hein. C'est difficile. C'est difficile. Et c'est incroyable comment Dieu peut se servir d'une personne pour m'enrichir personnellement. C'est fou comme Dieu se sert d'un frère, d'une sœur qui dit une parole, qui fait un geste, qui a un acte de bonté ou de serviabilité qui touche. Une parole, un service, un cœur hospitalier, de l'attention, de l'écoute, une prière, de l'amour, ou simplement le fait qu'elle est en Christ, elle vit en Christ. Et elle est en soi déjà une bénédiction. D'être dans sa présence, on est béni. Ça nous fait du bien. Dieu nous bénit les uns par les autres quand nous le laissons vivre en nous. Et si ce n'est pas clair pour vous, si vous ne savez pas vraiment, eh bien je vous encourage à prier et dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Où veux-tu que je serve ? En quoi je peux apporter quelque chose au corps de Christ ?» La question, ce n'est pas de savoir est-ce que Dieu vous a fait un don, il vous a fait un don. Mais comment, eh bien, vous pouvez le servir ? Quel est le don qu'il vous a accordé ? On a tous une part parce qu'on fait tous partie d'un corps, le corps de Jésus-Christ. Regardez Romains 12, on revient dans Romains 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Quand vous regardez un corps humain, est-ce qu'il y a une partie qui ne sert à rien ? On peut dire, oh ben, je peux la couper, celle-là, elle ne sert à rien. Non, tout le corps est un ensemble. Chaque partie est importante. Hein. C'est un tout. Chaque organe est important. Et il n'y a aucun organe qui peut venir occulter les autres en disant, oh ben, c'est moi qui suis le plus important, je peux faire sans vous. Non, on est interdépendants les uns des autres. Un corps, c'est un tout. Et chaque organe prend sa place et tire sa force, finalement, du travail qu'opèrent les autres organes. Et on est fort ensemble, en fait, dans un corps. Et dans le corps de Christ, c'est pareil. On a chacun une place, chacun une fonction, des œuvres à faire. Et on est membres les uns des autres. Et on s'enrichit, on s'édifie et on grandit ensemble, comme un vrai corps. Ensuite, pour prendre conscience d'un don, il ne faut pas avoir peur d'essayer, de faire, de mettre en pratique. On n'est pas fait pour avoir tous les dons. Il y a des gens, parfois ils sont multidons, hein. On est impressionné. Mais d'une manière générale, on n'est pas tous faits pour tout faire, hein. Alors parfois c'est clair, on n'a pas du tout le don de ceci ou de cela. Mais comment le savoir si on n'a pas eu l'opportunité d'essayer ? Et donc, il faut le considérer. Par exemple, si on aime les enfants, si on a suffisamment de maturité, on a quelques années de vie chrétienne, on aime le Seigneur, on aime enseigner les enfants, peut-être on peut se poser la question, mais tiens, est-ce que Dieu ne voudrait pas aussi que je me forme un peu et que je serve, que j'enseigne les enfants ? Il faut le partager, il faut en parler, prier. Parce que l'important, c'est de trouver notre place. Vous ne mettez pas la selle en dessous de la fourche. Hein. Sinon, s'asseoir sur la roue, ce n'est pas terrible. Hein, et puis avancer, ça ne fonctionnera pas. Donc, chacun a sa place. Et il faut trouver sa place. Ce que Dieu veut que nous fassions. Et si c'est notre don, nous le ferons très bien. Avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, eh bien, c'est le corps qui en sera au bénéfice. Ça va être une bénédiction pour l'Église. Maintenant, si ce n'est pas notre don, peut-être on peut quand même le faire. Il y en a, ce n'est pas leur don, mais ils le font quand même. Mais ça ne va pas être aussi bien que si c'était le don, vraiment. Le don que Dieu nous donne. Il faut savoir qu'une église locale qui fonctionne bien, c'est une église où chacun a compris ce que Dieu voulait qu'il fasse. Et il le fait. Ah ben alors là, c'est comme une machine bien huilée, c'est merveilleux. Maintenant, si dans une église locale, tous les dons ne sont pas présents, eh bien c'est souvent un petit nombre qui va essayer de couvrir l'ensemble des dons. Voilà, bonheur allant, hein, malant comme on dit. C'est, voilà, ils essayent, voilà, et parfois un peu moins bien que d'autres, hein, c'est certain. Ça ne sera pas forcément mal fait, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Moi, je peux jouer de la guitare. Je me débrouille. Mais s'il y a mieux, hein, il y a des guitaristes. Moi, je gratouille. Donc, ça peut aller. Mais s'il y a un vrai guitariste, ben voilà, hein, tant mieux. Hein, c'est lui qui doit jouer. Et de la même manière, on peut combler un trou quelque part, mais l'idéal, ben, c'est trouver la bonne personne. Celle que Dieu veut pour exercer l'activité par ce don du Saint-Esprit, communiqué par le Saint-Esprit. Et parfois, vous savez, dans le corps de Christ, il y en a qui font bien plus que ce qu'ils ne devraient. Même parfois, ils sont fatigués. Ils font bien plus parce qu'en fait, les autres n'ont pas pris leur place. Et du coup, ben voilà, ça fonctionne, hein, mais un peu comme un corps boitant. Mais il avance. On peut ajouter aussi que lorsque Dieu fait un don, lorsqu'il accorde un charisma, il y a aussi du goût pour le pratiquer. Albert, voilà, hein, c'était dur. Mais celui qui le, voilà, qui reçoit un don, il a aussi du goût. Il y prend goût, il aime ça, parce que c'est Dieu qui lui donne. C'est Dieu qui le demande et c'est Dieu qui le donne. Et ça peut être parfois le signe que, ben voilà, voilà la direction à prendre. Vas-y, avance, avance. Aussi, je tempère en disant qu'un don, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pas parce que Dieu nous fait un don que automatiquement, paf, c'est parfait, c'est puissant. Non, ça se travaille. Il y a parfois des mois, des années et des années où on apprend à faire de mieux en mieux. Et de mieux en mieux. On travaille son don pour être plus efficace, plus bénéfique, plus enrichissant pour l'ensemble du corps. Regardez 1 Timothée 4, 13 à 16. Paul dit à Timothée, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soit évident pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et on voit Paul qui dit à Timothée de travailler, de s'appliquer, de s'y donner de tout son cœur. Il avait reçu un don, voilà, un don par prophétie, avec imposition des mains des anciens. Il avait un don d'enseignement, un don pastoral, un don de prédication. Mais il fallait qu'il le travaille, il fallait qu'il progresse. Et ça allait demander, hein, des efforts, de la sueur. Hein. Je lisais quelque chose quelque part, j'ai retenu 5% d'inspiration, 95% de travail. C'est fou. Hein, il faut s'y donner. Et c'est vrai dans les dons que Dieu accorde. Dieu peut donner par exemple un don musical, mais on ne va pas pouvoir exceller et voilà, progresser si on ne met pas en pratique et si on ne travaille pas. C'est vrai dans l'enseignement, c'est vrai dans l'exhortation, c'est vrai dans l'hospitalité, c'est vrai dans le chant, c'est vrai dans la présidence, dans la gouvernance, en fait dans n'importe quel autre don. On essaye de faire mieux, de progresser. Ouais.
Si je peux me permettre, au niveau du message, par exemple, quelqu'un qui enseigne, son travail, ce n'est pas tant de préparer le message, c'est de préparer le messager. De se laisser préparer par lui.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, il y a les deux. Il y a le message et il y a le cœur. C'est clair, hein. Si le cœur n'est pas prêt, ben le message, voilà, ne sera pas prêt non plus. Bien sûr, bien sûr. Enfin, un don, c'est une qualité qui est reconnue par le corps tout entier. Si tous vous disent « ce que tu fais, c'est très bien, hein, continue, vraiment, c'est une bénédiction, on reconnaît que ça vient du Seigneur », alors, eh ben, voilà, il faut avancer. probablement il y a un don qui est avéré. Parce que pour chaque charisma, il y a une reconnaissance souvent unanime du corps de Christ. Une reconnaissance. Alors dans notre passage de référence dans Romains ce matin, il y a deux aspects aussi que j'aimerais relever. Donc Romains 12, verset 3, Paul nous parle d'abord d'humilité dans la pratique des dons. Romains 12 et verset 3, il dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc il dit ça, et puis ensuite, la suite que nous avons lue, hein, il enchaîne sur ces dons différents qui sont accordés selon la grâce de Dieu. Et donc lui-même avait reçu un don d'enseignement, l'apôtre Paul, et il exhorte, il dit « mais n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même ». Et c'est vrai qu'on ne peut se vanter de rien. Il est dit « qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, mais pourquoi t'en glorifies-tu ? Inutile, hein ? Comme Sébastien disait, il n'y a pas un don supérieur, un don inférieur. Il y a juste un ensemble de dons, hein, une diversité de dons. Et chaque don est important pour l'ensemble du corps tout entier. Dans un autre passage, Paul dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Celui qui plante, celui qui arrose sont égaux. Et nous sommes tous égaux, en fait, dans le corps de Christ. Et chacun avec un don différent que nous apportons, que nous partageons, que nous exerçons par le Saint-Esprit. Il est écrit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Et quand Dieu accorde un don, il veut aussi nous protéger de nous-mêmes dans la pratique de notre don. C'est-à-dire, il veut nous protéger de l'orgueil. Hein. C'est vrai que parfois, eh bien, on se dit, « Ah, ce don, c'est bien hein. !» Et puis, hop, on commence à monter. On ne monte pas longtemps. Hein. On se retrouve vite à terre. Hein. Et puis, on apprend, non. Et on apprend à demeurer en Christ. Hein. Et après, il nous protège de nous-mêmes, de nos propres travers, de nos propres faiblesses. Parfois, on se dit, « Ah, ben, je ne veux pas faire ce don parce que ben, je vais tomber. » Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est, est-ce que Dieu me le demande ? Si Dieu me dit, « Fais-le, je le fais. » Et je crie et je dis, Seigneur, aide-moi à le faire, avec ta force, avec toi, par toi. Dieu veut sanctifier aussi notre personne pour que nous puissions exercer notre don. C'est pour ça aussi que parfois, et j'ai déjà entendu, un musicien se convertit, un musicien qui était déjà bien avancé, hein, qui jouait très très bien, il se convertit. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit que Dieu lui avait dit « Non, tu ne pratiques pas la musique. » Pourtant, il excellait déjà. Hein. Dieu a dit non. Les années sont passées. Puis un jour, Dieu a dit « Maintenant, oui. Maintenant, tu peux. » Parce qu'il y avait une sanctification dans le cœur. Et avant, eh ben, c'était sa chute. Vous savez, quand on sait bien manier d'un instrument... Hein, on en voit beaucoup, hein, des musiciens, malheureusement, hein, qui tombent. Et Dieu, parfois, sanctifie un don qui est naturel. Il le prend dans ses mains, il nous transforme, et puis on devient capable de le faire non plus avec nous-mêmes et pour nous-mêmes, pour notre gloire, mais pour lui. Paul dit, revêtez-vous de sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Et par la vie de Christ, eh bien, Dieu nous accorde de pouvoir le servir d'une bonne manière, d'une manière qui est efficace, humblement. Mais ce n'est possible qu'en lui, quand on croit et quand on vient se cacher en lui. Alors, eh bien, blotti dans sa personne, c'est lui après qui est libre de faire et de se glorifier lui-même de ce qu'il donne. On peut se souvenir aussi de l'église de Corinthe. Quels étaient les dons qu'il recherchait ? C'était les dons visibles. Il voulait les dons qui... Voilà, hein, wow, ça en jette. Hein. faut que ce soit mis en avant. Et Paul va leur dire, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et quelle est la voie qu'il leur montre? L'amour. Dit l'amour, c'est plus important. Or, l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Et si notre cœur s'enorgueillit de ce que Dieu nous donne, alors eh bien, on a encore besoin d'être sanctifié. Et Dieu va faire son travail pour nous libérer petit à petit de nous-mêmes. Un jour, il y a des Grecs qui sont venus voir Philippe et ils ont dit « Nous voudrions voir Jésus ». Et c'est ça en fait. Nous voulons tous voir Jésus. On ne veut pas voir l'homme, c'est Jésus dont on a besoin. Et puis pour finir, j'aimerais terminer avec l'introduction de ce passage. C'est le premier verset, les deux premiers versets, Romains 12, versets 1 et 2. Parce que Paul commence par cela. À la fois, il termine tout ce qu'il vient de dire dans les précédents chapitres, il conclut, et en même temps, il ouvre sur ce nouveau sujet. Il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et c'est avec ces mots qu'il va entrer dans le sujet des dons de l'esprit qu'on vient de développer, nous exhortant à réfléchir et à pratiquer ces dons de la bonne manière pour l'utilité commune. Et parfois on se demande, mais quel est mon don ou quels sont mes dons? Mais on ne peut pas trouver son don ou ses dons si on ne commence pas par ce passage, par ces deux premiers versets. C'est très important. La vie de Jésus-Christ et les dons qui y sont attachés ne peuvent s'exprimer que si nous offrons notre vie à Dieu, si nous offrons notre corps, notre esprit en sacrifice vivant. Et parfois, le nœud du problème quand un don ne se manifeste pas, c'est que Christ n'a pas la première place. Il n'est pas offert. Alors, ça ne peut pas paraître. Christ n'a pas notre vie, elle n'est pas sur l'autel, on ne vit pas pour lui. Alors, Christ ne paraît pas, il n'est pas visible. Et forcément, ne pas offrir sa vie, c'est un frein, c'est un empêchement à l'exercice des dons. Et le résultat, souvent, c'est que on est bien malheureux. Parfois, on se traîne dans la vie chrétienne. Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et le mot « raisonnable » ici, c'est « logikos ». C'est un sacrifice logique, sensé, raisonnable. Pourquoi ? Mais à cause de tout ce que Dieu a fait pour vous. Et quand vous lisez les 12 premiers chapitres de Romains, on voit tout ce que Dieu a fait pour nous. Comment il nous a arraché de la boue, comment il nous a donné son esprit, comment il nous a transformés, il nous permet de le voir vivre en nous. Il nous accorde tout par grâce, racheté, lavé, justifié, sanctifié par la grâce de Dieu. Il nous a fait le don de son Fils, le don du Saint-Esprit, le don de la vie éternelle. À noter que les trois sont ensemble. Quand vous avez le don du Fils, vous avez le don du Saint-Esprit et vous avez le don de la vie éternelle, ou vice-versa. C'est un tout. Il nous a donné tout ça. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures, avec une nouvelle vocation, de nouveaux buts. Mais pour que sa vie s'exprime au travers de nous, alors il faut aussi s'offrir volontairement. On chante ce cantique. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme. C'est ça. C'est ce qu'on a besoin de faire quotidiennement. Chaque jour, on a besoin de dire, Seigneur, je m'offre encore à toi. Je te donne ma vie, mes bras, mes jambes, ma bouche pour te servir. Le monde qui nous entoure veut imprimer son image en nous. Le monde veut nous influencer, il veut prendre le dessus sur nous. Il veut qu'on le suive, qu'on lui obéisse, même dans nos goûts, dans nos désirs. C'est pour cela qu'il nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Se conformer, c'est prendre la forme. On accepte, on épouse, on se lie et on finit par ressembler à la chose en question. On finit par ressembler au monde. Et Dieu ne veut pas que nous prenions la forme que veut imprimer le siècle présent. C'est ce monde comme il est aujourd'hui. C'est la pensée d'un monde qui vit sans Dieu, qui ne veut pas de Dieu. Et le monde essaie de se satisfaire, de jouir, d'avoir du plaisir, de se distraire en dehors de Dieu. Et Dieu dit, ne vous conformez pas à ce monde, ne cherchez pas ce monde. Et le monde exerce une très forte influence par les médias, par la mode, la publicité. Et souvent le chrétien est tenté, on vit dans le monde. Et on tombe, on prend la forme que le monde imprime sur nous. On se laisse porter par la vague. Et Dieu ne veut pas qu'on se conforme. Mais il veut au contraire qu'on soit transformé. C'est-à-dire qu'on change de forme. C'est vrai qu'on est né avec la forme du monde, en quelque sorte. Mais Dieu veut qu'on soit transformé. C'est le mot métamorpho. Métamorphoser. Dieu veut faire une métamorphose. Comment ? Par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de notre pensée. Il veut qu'on comprenne quelle est sa volonté. Quelqu'un a commenté ce verset et il a dit « Le renouvellement de mon intelligence se manifestera précisément en ceci que je l'emploierai, mon intelligence, à chercher quelle est la volonté de Dieu et en faire la règle unique de ma vie. » Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? C'est ça le plus important. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est l'essentiel. Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Celui qui vit selon la volonté de Dieu, il vit en Christ. Il demeure en Christ. Et Christ peut vivre au travers de lui. Et le sacrifice vivant et saint que Dieu nous exhorte à lui faire, ça devient une réalité précisément quand on cherche à faire sa volonté. Discerner, comprendre quelle est sa volonté. Et c'est un sacrifice là qui lui est agréable. C'est un sacrifice qui lui plaît, qui est saint. Sa volonté, c'est que nous fassions, que nous pratiquions le don qu'il a choisi pour nous. C'est ça sa volonté. Et là, dans la pratique du don, nous lui sommes agréables. Qu'est-ce que Jésus-Christ me pousse à faire avec son énergie, avec sa force ? C'est ça la question. Est-ce que c'est d'ouvrir notre porte, d'accueillir chez nous ? Est-ce que c'est de jouer d'un instrument ? Est-ce que c'est enseigner d'une manière ou d'une autre ? Est-ce que c'est simplement écouter, visiter, manifester de la compassion de Christ, donner un verre d'eau ? Est-ce que c'est prier, intercéder dans le secret de notre chambre ? Est-ce que c'est servir les frères et sœurs concrètement dans leurs besoins ? Est-ce que c'est le diaconat ? Est-ce que c'est un service en particulier dans l'assemblée ? Est-ce que c'est participer au ménage ? J'en profite pour dire merci à tous ceux qui sont inscrits pour le ménage. Là, il y a eu une explosion de bonne volonté. Merci. Continuez, s'il vous plaît. C'est une bénédiction. Un soulagement aussi pour ceux qui le faisaient déjà depuis de nombreuses années. Est-ce que c'est évangéliser ? Partager sa foi, inviter, tisser des liens, des amitiés. Est-ce que c'est aller de village en village ? Voilà, Joseph et Ise parfois prennent leur camping-car et vont de ville en ville, partager l'évangile, parler de Jésus. Est-ce que c'est accompagner en voiture ? Est-ce que c'est mettre à disposition ses dons naturels ? Est-ce que c'est partir en mission ? Est-ce que c'est donner, soutenir l'œuvre ? Est-ce que c'est venir en aide à ceux qui sont dans le besoin ? Est-ce que c'est présider, conduire, organiser dans le corps de Christ ? Est-ce que c'est exhorter, porter, soutenir? Est-ce que c'est gérer, compter? Est-ce que c'est paître le troupeau? Est-ce que c'est chanter? Est-ce que c'est composer? Est-ce que c'est traduire? Est-ce que c'est écrire? Il y a des docteurs qui écrivent, ou simplement des gens qui écrivent un témoignage, hein, qu'ils publient, et ça devient une vraie bénédiction. Est-ce que on peut se poser la question. Dieu veut qu'on lui soit utile. Il veut que tous nous lui soyons utiles. Et on lui sera utile si on le laisse vivre en nous. Tout à l'heure, on a lu l'exhortation de Paul à Timothée. Et je reprends ce verset, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Il dit « Ne néglige pas. » Et on a une richesse qui vient de Jésus à partager, mais il ne faut pas la négliger. Alors, il semble ce jeune Timothée avait des difficultés. Il voulait servir Dieu par le don qui lui avait été communiqué par l'imposition des mains. Mais il était jeune, il était inexpérimenté, et il n'avait pas encore travaillé son don. Il se sentait faible. Alors, Paul va lui dire dans la deuxième épître de Timothée 1:6, il va dire... De Timothée 1:6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Et peut-être que cette flamme du don de Dieu est cachée en vous. Elle ne s'exprime pas par peur, par retrait, ou par négligence, ou par ignorance, ou par manque de consécration. Mais on peut ranimer la flamme du don de Dieu pour que ce don puisse éclore, puisse paraître, se manifester. Et on va y trouver une vraie joie, un vrai bonheur de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Alors je termine simplement en disant, offrons nos corps et notre esprit. Et soyons prêts à servir dans le corps, dans l'Église. Cherchons ce que Dieu veut que nous fassions. Prions, demandons à Dieu, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Alors, eh bien, on pourra devenir une bénédiction les uns pour les autres. Paul a dit à Timothée, « Alors, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Et dans la pratique du don, eh bien, on se sauve soi-même et on sauve aussi les autres. On devient une bénédiction pour les autres. On va avoir un moment de prière. Vous puissiez l'adorer. Lui rendre grâce. Je rappelle que la prière n'est pas un message que l'on adresse aux autres, mais c'est une louange, hein, qu'on adresse à Dieu. On parle à Dieu. Donc, qu'on puisse le louer et l'adorer ensemble.